Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le sujet est la modification des territoires. C'est un sujet que j'ai déjà abordé et je distingue d'une manière, on peut dire, assez générale, historique, deux formes de société. Une qui va modifier les territoires d'une manière radicale et une autre qui va un autre type de société qui va s'implanter d'une manière moins radicale. On peut dire, aujourd'hui, c'est un mot que je n'aime pas, c'est respectant la nature. En fait, il s'agit de garder la topographie, de garder probablement la végétation et d'avoir un rapport différent de son opposé, qui est celui de la transformation des territoires. Alors, je voudrais en préalable surtout me prémunir contre la tendance actuelle à moraliser des actions qui sont, on peut dire, qui remontent de la nuit des temps et qui sont des alternatives, des choses que l'on retrouve aujourd'hui d'un pays à un autre, dans notre histoire aussi, des alternances des formes à une autre. Et aujourd'hui, nous avons un rapport, notamment porté par l'écologie, qui est un rapport de moralisation où on se positionne en progrès par rapport à des périodes qui seraient obscurantiste ou des périodes qui étaient négatives par rapport à une période qui serait positive. Donc il faut replacer les choses d'une manière beaucoup plus sereine et de montrer qu'en fait il s'agit des deux faces du même problème, des deux faces de la même médaille qui sont liées et qui sont même, on pourrait dire, la dualité fondatrice des actions humaines. Une qui est de mettre l'homme au centre et de considérer que l'homme a le devoir ou par son action la nécessité de modifier la nature. Modifier la nature, ça veut dire l'agriculture, ça veut dire aplanir des territoires en pente pour pouvoir justement implanter des maisons. Ça veut dire aussi assécher les marais pour les rendre soit fertiles, soit pour éliminer les miasmes des moustiques qui amènent le paludisme. Enfin, tout un type d'actions qui sont des transformations. Percer des canaux, créer des ponts, des aqueducs qui amènent l'eau potable, tout cela sont des actions de modification très importantes de la nature. Et donc, il paraîtrait un peu violent de considérer tout cela comme une sorte de péché dans une religion. Alors, à l'opposé, et aussi tout à fait respectable, on peut aussi s'implanter en respectant une grande partie des topographies, en respectant aussi l'état existant d'un lieu, ou en ayant des modifications qui sont relativement mineures. On trouve cela dans toute l'histoire, et on trouve cela aujourd'hui aussi dans de nombreux peuples. Notre propre histoire n'est pas une marche en avant, puisque les alternances, par exemple, prenons notre pays, la France, on a eu, avant l'Empire romain, il y avait effectivement un rapport au territoire qui était, on peut dire, aujourd'hui moins prégnant que la volonté d'urbanisation romaine qui a effectivement créé des routes, des villes, des ponts, des aqueducs, comme je vous le disais. Et aussi, à la fin de l'Empire romain, on a eu un État qui était aussi moins pérenne. On a employé des matériaux qui étaient de la terre, du bois, et il ne reste pas grand-chose entre la fin de l'Empire romain et le début du Moyen-Âge, on a une période de quasiment 5 siècles, ou 6 siècles même, où il ne reste très peu de traces de ces établissements humains qui effectivement ont été détruits par le temps, par rapport à ce qui peut rester justement de ce qui a été bâti par l'Empire romain. Alors on va retrouver cela, et aujourd'hui je pense qu'il est établi d'une manière, on peut dire, généralisée, que nous sommes passés d'une phase à une autre. Alors, mon propos, c'est de montrer qu'il ne s'agit pas d'un progrès, mais il s'agit simplement d'une position, on peut dire, idéologique, au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une manière de voir les choses qui est à l'opposé de la manière autre, et qu'il ne s'agit en aucune façon du bien et du mal, parce que on peut faire mal des transformations du territoire, et on peut faire aussi garder un des états existants en ayant les populations qui sont malmenées, et justement par le fait qu'il n'y ait pas d'ambition pour rendre les conditions de vie des humains meilleures. Donc, encore une fois, il s'agit simplement d'alternance, et nous sommes clairement dans cette alternance qui est justement de modifier le moins possible le territoire. Quand je dis modifier le moins possible, il ne s'agit pas non plus, comme certains de l'écologie radicale voudraient, qu'on préserve totalement ce qui est l'existant, de ne rien construire, de ne faire que des modifications de ce qui existe. Et là aussi, on est sur une sorte de radicalité qui évidemment n'a aucun sens, d'autant plus que nous sommes sur un territoire qui est grandement artificialisé, et on a du mal à imaginer quel pouvait être le territoire avant l'intervention de toutes nos civilisations et des humains dans notre Europe et dans notre pays. Quand il y a deux siècles et demi ou trois siècles, les premiers migrants européens sont partis aux États-Unis, qui était évidemment pas les États-Unis, c'était l'Amérique, et c'était un pays qui était très peu peuplé. Et on peut dire que c'est un immense territoire qui est un continent de l'Atlantique au Pacifique, et ils ont, à leur grande surprise, trouvé quelque chose dont ils n'avaient pas l'idée, qui était la wilderness, qui était le mot employé, c'est-à-dire qui tient du sauvage, c'est-à-dire une nature qui était impénétrable. Et il est évident que personne n'était habitué à cela, parce que nos forêts ont des sentiers, nos forêts sont entretenues, les arbres sont abattus, nettoyés. En fait, on est dans un territoire, on peut dire entre guillemets, civilisé. Et justement, tous ces expatriés immigrants se sont trouvés devant quelque chose qui était un travail titanesque d'une nature qui était effectivement à l'état sauvage. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que nos territoires sont naturels. Et quand on voit nos paysages sont des paysages qui sont colorés par les champs. Ils ont été modifiés, ils ont été accessibles, et ils le sont toujours. Et on peut dire que même s'il y a aujourd'hui un phénomène, ce n'est pas un phénomène de déboisement comme on le prétend, mais au contraire, on a une déprise agricole parce que La mécanisation fait qu'un grand nombre de terrains ne sont pas rentables, ou parce qu'ils sont en pente, ou dans des sols qui ne sont pas assez fertiles, et que l'on a, notamment dans nos proches Pyrénées, une déprise agricole qui fait que on a une sorte de maquis grisâtre, de ronce qui prend ces territoires et qui va rendre nos paysages assez tristes. Et justement parce qu'il retourne à l'état de nature. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne dit pas assez. Donc, encore une fois, il n'y a pas le bien et le mal, il y a simplement des manières d'occuper le territoire. Et encore une fois, c'est un problème qui, au cours de l'histoire, on est passé d'une forme à une autre. Alors, par exemple, aux États-Unis, pour revenir à cette histoire des États-Unis, Thomas Jefferson, qui a été un président bâtisseur et qui avait visité l'Europe, la France, et s'était inspiré justement du canal du Midi, des routes romaines, et a tracé un réseau de routes dans les États-Unis qui sont une sorte de réseau orthogonal et qui était une copie de ce que l'Empire romain avait établi sur ses colonies. Donc il a reproduit cette forme de colonisation radicale et géométrique dans son pays. Alors il est évident que par la suite il y avait aussi cette influence qui n'était pas romaine, mais qui était l'influence du nord opposé, qui est l'influence anglo-saxonne. Et tout le monde sait qu'il y a ce que l'on apprend à l'école, le jardin anglais et le jardin à la française. Le jardin anglais qui est une sorte de mimésis, de copie de la nature, même s'il est totalement artificiel. Mais il recrée des rochers, des fontaines, des monticules et du pittoresque de la nature. Et le jardin à la française, dont l'exemple, bien sûr, le plus majestueux, c'est Versailles, est une radicalité où on ne voit pas du tout qu'est-ce qu'il y avait avant, avant l'intervention de le nôtre. Donc on a une projection d'une architecture qui est une architecture dessinée, symétrique et qui est son extension sur le territoire. Donc on a cette rationalisation du territoire qui fait que on a des aqueducs pour amener l'eau, on a des fontaines et on a un territoire qui est humanisé, transformé par l'homme. Donc c'est quelque chose de radical et vous voyez les deux oppositions qui existent. Et pourtant les États-Unis ont eu aussi cette influence, comme je vous disais, par exemple Central Park au milieu de New York est l'exemple d'une ville en damier où on n'a aucune idée évidemment quelle était l'ancienne ville amérindienne et même les premiers établissements des premiers colons. Et aujourd'hui, dans ce damier, on a une reconstitution d'un paysage pittoresque par un architecte paysagiste qui a évidemment de cette influence de l'école anglaise qui s'appelait Olmsted et qui a créé, inventé, on peut dire, le Parkway. Et le Parkway, c'était l'opposé de ces routes américaines que l'on voit dans les films, pour ceux qui ne connaissent pas les États-Unis, et qui sont droites et en angle droit. Et il a créé, justement, il a recréé ce morceau de nature. Et je vous disais donc, il a inventé le Parkway. Et le Parkway, c'est justement des courbes qui sont plantées, paysagées, qui suivent le paysage, et qui est effectivement quelque chose qui est très agréable et probablement dans l'esprit de notre temps. Bon, nous allons faire une pause médicale. reprenons sur cette opposition entre ce que j'étais en train de vous dire, c'est-à-dire le jardin anglais, nature, et le jardin à la française, qui est humanisé et qui est géométrique. Donc, aujourd'hui, on a cette dualité qui réapparaît avec un basculement vers le côté nature, et ce qui peut être tout à fait intéressant et correspondre à, on peut dire, l'esprit du temps, et les sociétés humaines ont, comme je vous disais à l'instant, toujours eu ces alternances. Alors, simplement, et je voudrais revenir encore une fois sur ce terme de morale, avec les mots de vertueux et les mots de respect, c'est un peu gênant parce que, effectivement, on est dans les mots de la religion, c'est-à-dire il y aurait à la fois d'un côté le bien, la vertu, et de notre côté, on aurait le mal. Alors, par exemple, quand je vous parlais des aqueducs pour amener l'eau, ben, les aqueducs, ils amenaient de l'eau potable dans des villes où il n'y avait que de l'eau saumâtre, de l'eau qui était polluée, et avec tout ce qui pouvait être accroché à cela, c'est-à-dire des maladies, des épidémies. Et aujourd'hui, en crise sanitaire, je crois, ce sont des choses qui devraient nous toucher. Donc les choses ne sont pas simples. Et donc on doit, je crois, accepter qu'il y ait un équilibre, même si on peut tendre aujourd'hui vers plus de nature qu'une vision minérale des choses. Mais il ne s'agit pas non plus d'employer des mots qui sont des mots péjoratifs pour du minéral et d'appeler par exemple cet horrible mot de bétonisation et on aurait en face la bétonisation et l'artificialisation et en face on aurait le bien qui constituerait dans une végétalisation. Parce que les choses ne sont pas aussi simples et on a besoin effectivement d'avoir, par exemple, des routes pour circuler et que les routes pour circuler, si elles ne sont pas, alors c'est pas du béton, c'est du macadam, mais enfin elles sont grandement artificialisées et dès qu'elles soient en pavé ou qu'elles soient en macadam ou en plaque de béton, quand il y a les orages, quand il pleut, et les routes défoncées, les routes défoncées avant, on ne pouvait plus circuler, et quand on ne peut plus circuler, on n'a pas l'alimentation, on n'a pas la possibilité d'avoir le médecin, d'aller à l'hôpital, de faire les nécessités de la vie, et donc on a bien besoin d'un équilibre. Voilà, donc c'est ce qui me paraît le plus important, et donc encore une fois je me répète, il ne faut pas mettre de la morale, mais se positionner dans des choix. Et quand on parle des choix aussi, donc ce sont des choix, on peut dire, de civilisation, ce sont aussi des choix de culture, des manières de voir les choses sur le plan aussi politique. Et c'est, je pense, le rôle de la politique de gérer cette alternance et ne sans tomber dans des excès, ni d'un côté, ni de l'autre, donc juste cet équilibre-là. C'est pour ça que nos régimes démocratiques sont importants dans un débat qui soit un débat serein et qui permette aux gens de trouver justement ce point d'équilibre où on n'est pas des positions radicales d'un côté ou de l'autre. Alors, en parlant de culture, puisque c'est un terme d'actualité, je dévie un peu de mon sujet central, mais on voit aujourd'hui apparaître des manifestations des acteurs culturels en disant « bon, c'est nous la culture et la culture se meurt ». Donc, puisque là nous sommes, à mon sens, dans un sujet culturel, qui est ce sujet de la position de l'homme par rapport à la nature, je pense que là nous sommes dans un sujet culturel. Alors aujourd'hui, je pense que les acteurs de la culture sont souvent de la culture, ce qu'on appelle le spectacle vivant, ou ne serait-ce que le cinéma et le théâtre, qui sont des choses tout à fait noble et respectable, mais en fait la culture c'est un sujet un peu plus vaste, et je pense que ce qu'on appelle le divertissement est plus près de cette culture entre guillemets et que la vraie culture. Alors il y a aussi, pour revenir à l'architecture, qui, je pense, fait partie de la culture au sens le plus large, quelques naïvetés qui sont émises. Alors, les naïvetés, c'est de penser que la culture nous préserve contre les régimes totalitaires et que, justement, la crise sanitaire empêchant que les théâtres ouvrent, ce qui est bien fâcheux, ou les cinémas et tout type de spectacles vivants, on allait avoir une fin de la civilisation, de notre démocratie, de nos valeurs auxquelles nous tenons. Et de dire que la culture est porteur, encore une fois, de morale et de civilisation. En fait, le sujet est totalement neutre. Et il n'y a pas de morale dans l'architecture, dans la peinture, dans l'art d'une manière générale, et ni dans les établissements humains tels que, je vous le disais, de planter des arbres, ce n'est pas de la morale, et c'est simplement des nécessités, c'est du plaisir aussi, mais on met trop de morale dans des choses qui n'en sont pas. Alors, ça peut être vous choquer, mais il faut quand même rappeler que les grandes réalisations de l'humanité, sur un plan, par exemple, architectural, mais aussi sculpture, peinture, n'ont pas été faites par des régimes qui étaient réputés pour leur douceur. Alors, on va par exemple parler des pyramides mayas et de ces civilisations aztèques, de l'Amérique précolombienne, quand on sait que ces pyramides, qui aujourd'hui sont très photogéniques pour les touristes, mais étaient destinées dans ces gradins à forte pente à faire des sacrifices humains, mais d'une manière assez conséquente, puisque lors de cérémonies, puisqu'il s'agissait d'empêcher que le soleil s'arrête. Tout le monde connaît les histoires de Tintin, qui était assez près de la réalité du sujet, mais que on avait des massacres de jusqu'à 25 000 personnes qui étaient égorgées avec le sang qui ruisselait sur les marches. Donc, on pourrait énumérer. Les Romains n'étaient pas non plus dans les spectacles dans les arènes, même si aujourd'hui les Colisées ou les arènes de Nîmes sont des lieux superbes, magnifiques pour les touristes. Les spectacles qui s'y déroulaient étaient particulièrement violents. Mais aussi des civilisations, par exemple, que l'on a un peu oublié, mais par exemple le turco-mongol Tamerlan, au XIVe siècle, était un conquérant qui a conquis une grande partie de l'Asie, et sa tactique était que dans les villes qu'il allait conquérir, c'était de tuer la population parce qu'il n'était pas sûr de pouvoir maîtriser et dominer ces populations. Donc, on tuait toute la population. Paraît-il qu'il aurait tué jusqu'à 17 millions de personnes dans ses différentes conquêtes. Mais, par contre, comme c'était un homme qui aimait les arts, quand il tuait toute la population d'une ville, il préservait les artisans et les artistes qu'il amenait dans sa capitale, dans sa capitale, qui était Samarcande. Alors Samarcande, c'est un bijou de beauté. Vous avez vu des reportages, des photos sur ces palais magnifiques et sur ces villes qui sont, on peut dire, à l'échelle humaine, où vous avez les mosaïques, les fontaines, tous les arts qui sont magnifiés. Et ce protecteur des arts et des routes de la soie et des civilisations les plus brillantes de l'humanité était cet horrible Tamerlan, mais je pense qu'il n'a pas été le seul dans ce cas. Donc ça, c'était une conclusion un peu pessimiste, mais il faut rappeler certaines vérités et que nous ne tombons pas dans une espèce de vision bisounours du monde, et de rappeler justement les violences du monde, et que derrière les plus grandes merveilles de l'humanité, souvent, elles cachent de grandes violences. Voilà, c'était la fin de cette chronique, qui est une fin pessimiste.